Et nous relisons ce matin, dans l'évangile de Jean, le chapitre 8, les 11 premiers versets, Jean 8, les versets 1 à 11. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Tôt le matin, il retourna dans le temple et tous les gens s'approchèrent de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Les spécialistes des Écritures et les pharisiens lui amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en train de commettre un adultère. Il la place au milieu de tout le monde et interroge Jésus. « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, que dis-tu ?» Il lui posait cette question pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et déclara « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, ils partirent, l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait toujours au milieu. Alors il se redressa et lui demanda « Eh bien, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné ?»« Personne, Seigneur, répondit-elle. « Je ne te condamne pas non plus, dit Jésus. Tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus. »
Écoutons ce texte lu avec l'esprit d'Isaïe, un des plus grands de la prophétie. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Je vais faire couler des fleuves dans le lieu sec. Chers amis, l'Église ancienne du Régné des Lions attribuait cet écrit néo-testamentaire à l'apôtre Jean. Cet évangile, surnommé le quatrième évangile, est considéré comme une illustration de la foi chrétienne avec usage, des gestes, des signes et de la dualité johannique ciel, terre, mort et vie. Si bien que Jésus nous plonge sur le chemin de la foi, de l'absolution du péché, d'autant plus que c'est lui qui a le pouvoir de délier le péché et de nous montrer le chemin en tant que pèlerin sur terre. Car, disait-il, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et si quelqu'un croit en moi, il ne périra pas, il aura la vie éternelle. Alors, frères et sœurs, comment concilier notre existence dans un monde marqué par la tergiversation et la fragilité? Comme cette femme adultère découverte ce matin dans la lecture. Si ce n'est qu'une prise de conscience de notre condition pécheresse à laquelle nous sommes invités de frayer d'un chemin qui surmontera nos indifférences, nos incertitudes, l'ignorance, le mépris, la précarité, la maladie et bien tant d'autres défis. Avec la femme adultère, l'évangile de ce matin nous invite à décrypter. Au lendemain de la fête de tentes, qui rappelle le séjour d'Israël dans le désert, pharisiens et scribes, notables et gardes, envoyés pour l'arrestation de Jésus, rentrent sans avoir mis la main sur lui. Comme il était tard, Jésus repartit au mont des Oliviers pour y passer la nuit. De retour au temple, il continuait à prêcher et son enseignement avait beaucoup de gens. Son enseignement impactait la société entière par sa qualité novatrice du changement, du pardon, de la conversion et de la miséricorde divine. Bien que son ministère soit accueilli favorablement par beaucoup, il suscite néanmoins la jalousie des pharisiens, l'opposition des scribes et des grands prêtres qui cherchent par tous les moyens de piéger ces derniers. C'est ainsi qu'une femme prise en flagrant délit d'adultère, dont la Bible ne donne pas le nom, ce que je constate, est conduite au temple pour que Jésus se prononce sur la sentence. Il faut d'abord que tenter d'expliquer l'adultère à l'époque de Jésus. Sur le plan religieux, l'adultère est condamné dans le judaïsme, considéré comme la violation sur le droit des propriétés. Le système était tel que tout droit relatif au mariage était attribué au mari, réduisant considérablement le rôle de la femme. Alors, il existait trois types d'adultère pour lesquels on pouvait accéder au royaume des cieux. L'adultère entre un homme et une femme mariés, ça vous trouverez ça dans Lévitique. L'adultère commis entre une jeune fille vierge fiancée à un homme avec des peines encourues qui étaient indubitablement la lapidation. Ensuite, le troisième était ou rêve d'un caractère religieux, un caractère bilatéral, un caractère personnel. Il fait référence justement à ce décalogue enseigné, à savoir tu n'auras pas d'autre Dieu et tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux, sous peine des sanctions aux conséquences dévastatrices qui va jusqu'à la désagrégation de l'alliance de Dieu prescrite par Dieu lui-même. Ici, lorsqu'on amène la femme, l'adultère n'est qu'un prétexte utilisé par ce courant religieux mis en place pour nier, défier l'autorité et l'enseignement de Jésus, afin de l'arrêter. D'ailleurs, vous allez le constater plus tard en relisant le récit de Jean vers le chapitre dans 8:59, un peu plus tard. D'ailleurs, les mêmes accusateurs finiront par jeter, ou le même détracteur jeteront finalement la pierre sur Jésus. On aurait pu imaginer que la femme amenée au temple où Jésus enseignait soit avec son complice. Alors, il n'en est rien du tout. Curieuse arrestation, marquée par la procédure de vice de forme. Jésus transcende cette situation et son enseignement ne cherche pas non plus à abroger la loi de Moïse, si ce n'est compléter, l'orienter, le rendre beaucoup plus humaine dans sa dimension par le pardon, la miséricorde divine. Et toi, qu'es-tu ? Oui, je veux ouvrir un chemin dans le désert, le cœur dans le désert, des cœurs de la loi. Jésus, face au piège des scribes et pharisiens, ne suggère pas de lapider la femme et ne répond pas directement. Au lieu de cela, il réplique. Tiens compte qu'il est venu dans ce monde pour donner la vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il est censé donc de protéger les faibles, les pauvres et améliorer, bien sûr, notre relation avec l'altérité. Vous savez, le cœur dépravé de l'homme reste quelque réconfort s'il réussit à trouver pire que lui. Il croit qu'un plus grand péché que le sien commis par un tiers peut l'excuser. Autrement dit, en accusant, en blâmant autrui avec véhémence, ce cœur de l'homme finit par oublier son propre péché. Ainsi, il se réjouit de l'injustice. Que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Cette phrase mérite d'être réfléchie car elle nous enseigne une première vérité. En effet, ceux qui portent moins de jugements sur les autres sont ceux qui ont une profonde capacité à se remettre en question et à reconnaître leurs propres erreurs ou leurs propres imperfections. Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas lapider. Il sait que s'il laisse condamner la femme, ce serait une injustice, ce qui remettra en cause son enseignement. Si en revanche, il condamnait cette femme, il pourrait utiliser cet acte pour montrer son opposition au gouvernement romain, aussi son manque de miséricorde. S'il y a châtiment, ce ne serait prononcé que par ceux qui n'ont jamais péché. Ici, Jésus laisse cette offre divine à la femme, dans la perspective d'une vie fondée sur le statut de la reconnaissance de Jésus malgré la confrontation et de la régénération de la femme à bâtir un autre projet de vie au sein de cette récréation du monde que désormais le Jésus souscrit. Alors c'est la première bonne nouvelle de ce texte pour nous ce matin, à prendre en compte l'autorité venu de l'Esprit de Dieu, qui dans une situation dans laquelle se dessinent le ténèbre, la maladie, les doutes, le Seigneur nous aidera à briser la fatalité qui pourrait nous ensevelir ou nous envahir. Les chrétiens doivent être capables de laisser cette autorité divine s'exprimer, de la laisser se manifester lorsque nous faisons face à des situations où seule cette autorité peut apporter délivrance. Cette autorité, cette puissance nous est donnée par Dieu au moment voulu chaque fois que nous en avons besoin. Elle se manifeste particulièrement lorsque nous sommes confrontés à la fragilité de ce monde. Elle ne deviendra jamais une violence impétueuse et il sera une alternative, une possibilité qui s'offre à nous. La lumière divine qui brillera et empêchera l'injustice et le mal à triompher. Elle permettra également à ce que nous soyons des hommes et femmes libres. Par le fait que notre espérance est en Christ, nous sommes faits pour son plaisir, il est le garant de notre liberté et de notre sécurité spirituelle. Notre abri sur lequel nous sommes affiliés à lui sera comme époux, voire la symbolique des vierges attendant l'époux. Ne dit-elle pas que je vous ai fiancé à un époux unique pour vous présenter au Christ comme une vierge pure? Nous sommes appelés à vivre pleinement ces temps de préparation spirituelle où nous pourrions approfondir notre connaissance du Seigneur. Rapprochons-nous de lui dans la communion intime avec le Christ sur ce chemin de fiançailles nécessaire pour notre vie chrétienne et nous serons transformés par son amour. Il est essentiel par contre de ne pas tomber dans l'illusion de croire que nous avons atteint la perfection. Une telle pensée sera une erreur profonde. Chaque jour, nous sommes invités à nous rapprocher davantage de lui, à approfondir notre foi, à aimer Dieu avec plus de ferveur et à aimer notre prochain avec une générosité renouvelée. La foi, vous savez, n'est jamais un état permanent. C'est une réalité dynamique, vivante, qui requiert d'être constamment nourri et fortifié. Notre vie spirituelle demande un travail continu, une vigilance constante, un engagement fidèle envers le Christ, à l'image de l'attente pure et pleine d'espérance de se fiancer envers sa fiancée. C'est ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui, ce matin, dès le début de son ministère de béatitude. Il ne déclare pas heureux ceux qui ont une foi accomplie ou heureux ceux qui sont spirituellement riches, mais heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Être pauvre en esprit, c'est reconnaître notre fragilité, notre dépendance absolue à la grâce de Dieu, notre besoin incessant et sa présence. Même si nous n'avons progressé, nous devons toujours rester conscients que nous n'avons jamais atteint la plénitude. Nous devons constamment désirer à nous rapprocher de lui. L'attitude fondamentale qui nous est demandée est celle de toujours avoir soif de Dieu, être ouvert à l'action du Saint-Esprit, consentir ce désir ardent et inaltérable de Dieu à cette recherche incessante. Celui qui cesse de marcher, celui qui croit être arrivé, celui qui n'a plus d'aspiration de progresser, celui-là se trouve arrêté et dans l'immobilité. Il n'y a que la mort spirituelle qui l'attend. Comme un rocher figé dans le sol, il ne fait plus place à la vie. Il ne fait plus place à cet amour que Jésus-Christ ou Dieu souhaite que nous soyons vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Alors, mes bien-aimés, aujourd'hui, prions le Seigneur qui nous accorde grâce à reconnaître notre pauvreté en esprit, de ne jamais cesser de marcher vers lui, vers sa lumière et son amour. Que le désir constant de Dieu soit notre force et notre guide sur le chemin de la sanctification. Amen.